essayer de ne pas être trop difficile, puisque lorsqu'on parle d'art et culture, on est tout de même obligé d'employer un certain nombre de concepts, de les mettre en relation, d'élaborer un petit peu la pensée, et je vous ferai injure si je me contentais de propos de café du commerce. Donc je vais essayer de travailler ces notions, de les faire travailler, de les mettre en relation, mais encore une fois, dans le souci de ne pas être inutilement technique. Alors, on a donc affaire à deux notions, art et culture, dont on admet traditionnellement que, aussi bien dans la pratique de l'art, des arts, que dans la réception des arts, c'est-à-dire dans le fait d'aller au théâtre, d'aller voir des films, de lire des livres, d'aller voir des expositions, ce qu'on appelle la réception, aussi bien, dis-je, dans la pratique que dans la réception des œuvres d'art, eh bien, on admet bien volontiers que c'est en cela que consiste la culture. Quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui aime les arts, qui aime les pratiquer, ou bien qui aime, entre guillemets, les consommer. J'emploie d'autant plus aisément ce terme de consommation à propos de l'art, qu'après tout, tout à l'heure je vous lirai un passage, dans sa toute première leçon de poétique au Collège de France, si ma mémoire est bonne, c'était en 1932, Paul Valéry distingue justement le système du producteur, donc du créateur d'art, de l'auteur, et le système du consommateur. Alors, du coup, les ingrédients essentiels de la culture sont constitués par les belles lettres, comme on disait naguère, et les arts, on ne voit pas où est le problème, puisque du coup, art et culture, c'est pareil. Il y a culture parce que les arts la nourrissent. C'est donc dire qu'il y aurait entre art et culture une relation simple, évidente, et tellement évidente même qu'on se demande, encore une fois, où serait donc le problème. Or, je voudrais ouvrir un certain nombre de pistes, de questionnements, qui montrent que les choses sont bien loin d'être aussi simples. Alors, mon propos s'articulera en trois moments, et j'entame donc tout de suite le premier moment qui sera consacré à la levée d'un certain nombre d'ambiguïtés. Vous savez que le propre des mots, les mots et les choses d'ailleurs, c'est de varier dans le temps. Il y a une historicité des significations. Et on ne peut pas parler de l'art et la culture de manière anhistorique, je veux dire de manière indépendante de l'histoire et du temps. On n'est pas dans l'absolu, ce ne sont pas des notions qui sont inscrites de toute éternité dans je ne sais quel ciel des idées. Donc on a affaire à des choses qui varient et des mots qui varient dans le temps et aussi, on va le voir, dans l'espace. Alors, je voudrais d'abord que nous demandions d'où vient cette apparence d'évidence ou cette apparence de simplicité dont j'ai parlé il y a un instant. Eh bien, à mon sens, cela vient de deux préjugés ou encore de deux idées irréfléchies qui d'ailleurs vont de pair, vont ensemble. La première idée, c'est que une certaine notion ancienne et aujourd'hui, disons-le, pas mal obsolète, pas mal dépassée ou déphasée, une certaine idée traditionnelle de l'homme cultivé, eh bien, privilégie la pratique des lettres et des arts et considère qu'au fond, c'est le propre de l'homme occidental que d'avoir, d'une certaine façon, porté cette idée de la culture à l'achèvement. Donc, on confond culture avec homme cultivé au sens de l'honnête homme du XVIIe siècle, par exemple en France, ou bien au sens des grands érudits de la fin du XIXe siècle qui vivaient dans leurs bibliothèques, ces grands médecins qui finalement passaient plus de temps quelquefois à écrire des beaux livres sur Mallarmé ou sur d'autres, je pense au docteur Henri Mondor, que finalement dans le cabinet médical avec leurs patients. Donc il y a une certaine idée, disons bourgeoise pour aller vite, n'est-ce pas, de l'homme cultivé qui fait un peu barrage pour aller plus loin dans l'approfondissement des relations entre l'art et la culture. Ça c'est la première idée irréfléchie, c'est je dirais le premier préjugé. Or, on va le voir, il n'y a pas la culture avec LA majuscule, mais il y a des cultures, et j'y viendrai dans un moment, parce que je vous montrerai que, en même temps, lorsqu'on parle de culture au pluriel, on parle d'une notion littéraire de la culture, qui est celle de l'européen cultivé, à une notion qui est beaucoup plus celle des ethnologues ou des anthropologues, c'est-à-dire qu'au fond, dans ce sens-là, culture veut pratiquement dire la même chose que société. Toute société est une culture. Et, par définition, une culture, c'est-à-dire une société, consiste dans un certain nombre d'activités, des activités qui sont à la fois artistiques, religieuses, etc., etc., sportives, pourquoi pas, qui, justement, représentent quelque chose d'absolument singulier pour un groupe humain donné. Ça, c'était donc la première idée, celle de l'homme cultivé. La deuxième consiste à croire, je parlais de Valéry il y a un instant, qu'il existe une sorte d'osmose, une sorte de communication naturelle, de lien organique, voire de communion entre le créateur et le producteur. Autrement dit, le créateur, par exemple le poète, nous ferait part de ses sentiments, ce serait le lyrisme qu'il caractérise, il parlerait de ses passions, de son amour, de la nature, du beau, du sublime, que sais-je, et nous qui le lisons, nous serions immédiatement tellement touchés par ce qu'il nous dit que nous communirions avec lui et il y aurait une sorte de relation d'osmose entre le système du producteur et le système du consommateur. Or, c'est là un préjugé, c'est une vue de l'esprit, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Je ne veux pas citer trop de textes parce que ça contribuerait naturellement à allonger démesurément le propos, mais je voudrais tout de même vous citer ce passage de Valéry dans la première leçon du cours de poétique au Collège de France. « Il n'y a pas, écrit Valéry, de regard capable d'observer à la fois ces deux fonctions. Producteur et consommateur sont deux systèmes essentiellement séparés. L'œuvre est pour l'un le terme, c'est-à-dire pour l'artiste, pour le créateur, pour l'auteur, résultat, l'œuvre est pour l'un le terme, pour l'autre, l'origine de développement, qui peuvent être aussi étrangers que l'on voudra l'un à l'autre. Nous ne pouvons considérer que la relation de l'œuvre à son producteur, ou bien la relation de l'œuvre à celui qu'elle modifie une fois faite, donc le récepteur. L'action du premier et la réaction du second ne peuvent jamais se confondre. Les idées que l'un et l'autre se font de l'ouvrage sont incompatibles. On n'a jamais été aussi net dans la démystification d'une idée qui naturellement ferait plaisir, mais qui aurait été fausse, à savoir que ce qu'un artiste a mis dans son œuvre, il n'est pas dit du tout que le récepteur y mettra la même chose. Autrement dit, pour Valéry, la réception est aussi une action, c'est aussi un système d'interprétation à part entière. Au fond, l'œuvre appartient autant à l'auteur qu'au récepteur, et le récepteur est une sorte d'auteur, dans la mesure où les idées qu'il met dans l'œuvre, une œuvre que pourtant il n'a pas faite, eh bien ces idées sont siennes. Bref, ce qui rend la relation art-culture plus complexe qu'il ne semble d'abord, moins évidente, c'est que les deux termes art et culture, on vient d'en avoir un aperçu, ont des significations différentes. Autrement dit que les mots et les choses sont également soumis à l'historicité. On mesure facilement l'importance de cette considération pour peu qu'on réalise que le concept d'art que nous avons tendance, nous, encore aujourd'hui, à utiliser de façon, je dirais, spontanée, non critique, eh bien, ce concept d'art est propre. Ça, c'est une chose extrêmement importante que je vous demande de bien noter. Ce concept d'art est propre non seulement à l'Occident, c'est-à-dire au fond, d'abord à l'Europe, les États-Unis ayant pris, New York ayant pris la succession de Paris vers 1945, et même, on peut dire, vers 1940, à la faveur de la guerre. Il y a d'ailleurs un livre extrêmement important et connu de Serge Guilbeault qui a été écrit là-dessus et qui s'appelle « Comment New York voilà l'idée d'art moderne. Comment New York s'est emparé de l'idée d'art moderne et comment New York a succédé à Paris dans le rôle de capitale mondiale des arts, ce qu'était Paris jusque avant la Deuxième Guerre mondiale. » Donc c'est dire que le concept d'art sur lequel nous vivons encore naïvement aujourd'hui tant que nous ne le critiquons pas, tant que nous ne l'examinons pas, est un concept rigoureusement européen. C'est un concept qui non seulement est européen dans l'espace, mais qui est en même temps un concept relativement resserré dans le temps, puisque ça commence en gros avec la Renaissance italienne, et ça se termine en gros encore avec Picasso ou Pollock, pour prendre l'Europe et les États-Unis, dans les années à peu près 1970. Au fond, c'est ce qu'on appelle le grand art, ce que les Américains et les Anglais appellent « the high art ». Le grand art, c'est l'art de la Renaissance à Picasso, c'est-à-dire un art sacré, un art énigmatique, un art qui finalement interroge finalement ce qu'il y a de plus essentiel dans la condition humaine, et que nous appelons art tout court, hein, alors qu'aucune autre civilisation ne l'a fait avant nous. Et c'est le propre justement de ce que Malraux appellera le musée imaginaire, qui est un musée à la fois intemporel et planétaire, c'est le propre du musée imaginaire que d'accueillir dans ses murs, ou même quelquefois dans ses cloisons virtuelles, hein, des productions que nous appelons art, alors que ceux qui les ont faites, ces productions, jamais, jamais de leur vie, n'ont eu seulement l'ombre d'une idée de ce que nous appelons art. Lorsque les hindous, lorsque même les grecs, et surtout de la période archaïque, lorsque d'autres civilisations que la civilisation européenne faisaient des œuvres, eh bien ces œuvres étaient immédiatement immergées dans un contexte de signification et de pratique qui ne faisait pas apparaître une idée autonome de l'art. Autrement dit, ce qui est le propre de l'Europe, c'est l'idée que l'art est une activité spécifique autonome, alors que partout ailleurs, l'art baigne dans d'autres activités, et quelquefois d'ailleurs recouvertes ou dissimulées par elles, et lorsqu'un Grec admire la statue d'Hermès, il n'admire pas une œuvre d'art, même s'il peut admirer la virtuosité du sculpteur, qu'il soit Phidias ou Praxitèle. Ce que le Grec voit dans la statue de marbre du Pentélic, ce qu'il voit, c'est un dieu. Donc l'art est finalement ici recouvert par la religion. C'est donc le propre de l'Europe que d'avoir au fond, plus ou moins substitué à la religion, l'art comme activité spécifique. Mais les choses se compliquent encore, je l'ai dit, si nous songeons que ce mot « art » dont la Renaissance fera un si grand usage, si nous songeons que ce mot « art » vient du mot latin « ars », lequel vient lui-même du mot grec « techné », d'où naturellement dans quoi vous reconnaissez « technique », mais la « techné », ce n'est pas seulement la technique, c'est tout ce qui relève des moyens, tout ce qui relève de la manière de faire. Bon. Or, comment est-on passé de cette idée de l'art, quelquefois avec un grand A, le grand art, the high art, a un mot, le mot grec, ou le mot latin qui en dérive, ars, qui eux ont des significations beaucoup plus humbles. Je veux dire que par exemple chez Platon, vous trouvez techné pour dire l'art du pilote, ou bien l'art du nautonnier, ou bien l'art de l'ébéniste, ou bien l'art de l'orateur. Hein. C'est une manière de faire. On appelle techné ou ars toute manière de faire, et j'ajoute que les choses se compliquent encore plus si l'on songe que l'art a signifié pendant très longtemps à la fois des métiers ou des savoir-faire, et pendant toute la période médiévale, les artes au pluriel, les sept artes du trivium et du quadrivium ont signifié des savoirs. On enseignait dans les universités médiévales, par exemple à la Sorbonne au XIIe et XIIIe siècle, on enseignait les artes, c'est-à-dire la musique, la géométrie, la rhétorique, la grammaire, etc., qui étaient répartis en 3 et 4, c'est-à-dire les arts du nombre et les arts du mot, et on appelait art, artes, des savoirs. Ces savoirs, évidemment, étaient des savoirs dogmatiques, c'est-à-dire qu'il fallait les apprendre, si j'ose dire, par cœur. On les appelait, on les considérait comme des savoirs, mais vous comprenez bien que ces savoirs n'étaient pas des sciences au sens moderne du mot, c'est-à-dire au sens qui va démarrer seulement avec Galilée et Descartes. c'est-à-dire la relation entre les mathématiques et l'expérience. Donc, il a fallu bien du mérite à cet art de la Renaissance pour s'émanciper, pour s'affranchir, pour se distinguer de tant d'usages du mot art qui finalement ravalait la notion à toute manière de faire, ou bien, plus spécifiquement, à des savoirs scolastiques, comme je viens ici de le relater. Or, l'artiste au sens européen du terme, et donc au sens florentin, au sens renaissant, n'est ni un mécanicien, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille de ses mains, qui produit des objets manufacturés utiles, ni un savant au sens scolastique ou médiéval. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on appelle un artiste? Par exemple, Alberti, dans son De Pictura de 1434, où il dépeint le profil de ce qu'il appelle le Doctus Victor, c'est-à-dire le peintre savant, eh bien, ce qu'on appelle un artiste, c'est quelqu'un qui est dépositaire d'un enthousiasme, d'une libre inspiration, qui le conduit à poursuivre une idée de la beauté, de façon à la réaliser dans des œuvres qui parlent à la fois au cœur, c'est-à-dire à la sensibilité et à l'esprit. Donc finalement, ce qui va permettre à cette idée d'art de franchir les siècles en Europe d'abord, eh bien c'est la différence que feront les renaissants entre opus et labor, entre œuvre et travail servile, entre, pour employer une distinction que vous connaissez sûrement et qui traverse toute l'histoire occidentale, et qui vient d'ailleurs des Grecs, entre les arts mécaniques, qui sont par exemple le fait de l'ouvrier ou de l'artisan, hein, qui travaille de ses mains pour produire des artefacts, des objets manufacturés utiles, et d'autre part ce qu'on appelle les arts libéraux, et tout le combat de la peinture, notamment. La peinture étant le grand art par excellence, tout le combat de la peinture, ça va être de fonder des académies à l'image des académies littéraires, de telle façon qu'on ne confonde surtout pas, comme disait Rembrandt, le peintre avec un teinturier. Rembrandt rappelait toujours qu'il était peintre et non point teinturier, c'est-à-dire que son art était libéral, donc était un art de liberté, un art qui finalement s'adressait à l'idée et à la sensibilité, et non pas du tout un art mécanique. Vous savez, c'est très intéressant de voir comment les Grecs appellent les arts mécaniques. Ils les appellent anaikai technai, je traduis. Dans anaikai technai, vous avez un adjectif, anaikai au pluriel, qui vient du grec anankai, qui veut dire la nécessité. Et qu'est-ce que c'est que la nécessité pour les Grecs? C'est tout simplement la subsistance, c'est la survie. Qu'est-ce que c'est que les arts mécaniques? Ce sont les arts qui sont nécessaires à la vie, dans le sens animal du terme. Si les hommes ne produisent pas, ne fabriquent pas, ne font pas des maisons, ne construisent pas des bateaux, etc., etc., eh bien, tout simplement, l'espèce humaine disparaîtra. Eh bien, je dirais que la nécessité pèse trop sur ces arts qui sont justement dits mécaniques pour qu'ils aient une valeur intrinsèque. Au contraire, ce qui fait la valeur de l'art, c'est précisément sa libéralité, sa générosité, sa déprise par rapport justement à toute pression des nécessités vitales. Alors, il va falloir que je précipite un petit peu le mouvement parce que sinon je ne serai pas dans les temps. En tout cas, vous voyez que les deux notions d'art et de culture, sans être vraiment tout à fait synchrone, renvoie vraiment au même espace culturel et historique, c'est-à-dire l'Europe moderne. L'Europe moderne produit à la fois une idée de la culture, fondée sur celle de l'homme cultivé, de l'honnête homme, et d'autre part, produit une idée de l'art, comme art libéral opposé à l'art mécanique, fondée à la fois sur l'idée. C'est la fameuse causa mentale dont parle Léonard de Vinci. Léonard de Vinci dit que l'art est cause mentale, chose mentale. Le peintre n'est pas un barbouilleur, c'est pas quelqu'un qui reproduit, si vous voulez, des apparences en se gargarisant, en se repaissant goulûment de sensualité picturale. Non, le peintre est celui qui peint une grande action. C'est celui qui finalement donne corps pictural à une idée. Donc il y a une dimension intellectuelle, une dimension libre dans le grand art. On peut donc dire que les deux termes ont connu des évolutions qui ne sont pas toujours, je l'ai dit, synchrones et qui, par conséquent, ont été source de certains malentendus. Mais bientôt, dans l'histoire de l'Occident, les relations art-culture ont été largement surdéterminées par l'opposition tradition-modernité. Alors, je vais essayer de résumer ça dans deux questions. L'art doit-il créer, en prenant appui et exemple sur les modèles de la grande tradition? Ou bien, au contraire, est-il tenu de faire preuve d'originalité? Donc vous voyez apparaître déjà, à l'intérieur de cet espace qui pourtant est le même, vous voyez apparaître une sorte d'antinomie ou de contrariété. La culture, c'est la tradition. La culture, c'est la règle. La culture, c'est ce qu'on peut léguer. La culture, c'est un trésor. Ce trésor-là, bien entendu, il s'enrichit constamment. Il se nourrit en permanence des œuvres. Mais d'un autre côté, d'où l'antinomie, la condition pour créer des œuvres, c'est pas d'imiter ceux qui ont fait avant nous. C'est pas de faire pareil. C'est d'avoir la même ambition qu'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on les imite. Ça veut dire qu'on voudrait être ce qu'ils sont, mais tout en restant soi-même. Hein? C'est Chateaubriand qui disait que l'écrivain original n'est pas celui qui n'imite personne, c'est celui que personne n'imite. Donc finalement, seul l'inimitable instruit. C'est ça le problème. Mais il y a une antinomie. L'artiste ne fera pas d'œuvre originale, authentique, intéressante, s'il ne suit pas la veine de son propre génie, de sa singularité, mais en même temps, s'il la suit trop, il va rentrer en conflit avec ce qui, dans la culture, relève de la tradition, relève du legs. Donc voilà déjà une première façon de poser l'antinomie. Deuxième question. La culture est-elle, de son côté, la culture classique humaniste, les humanités, dans le sens strictement européen ou occidental, ou bien est-ce qu'elle se caractérise au contraire par la diversité anthropologique reflétée dans un Kunstwollen différent? Alors je voudrais faire ici une toute petite incise, peut-être qu'on pourra y revenir dans la discussion, à propos de cette idée de Kunstwollen. En allemand, ça veut dire un vouloir artistique. Je voudrais signaler qu'en 1909, un jeune historien allemand, dont le nom est devenu extrêmement célèbre et dont l'œuvre est une étape importante, c'est-à-dire Wilhelm Voringer, qui a écrit un livre qui s'appelle Abstraction et Einfühlung. Einfühlung, ça veut dire sympathie, sympathie immédiate. C'est traduit en français comme ça, Abstraction et Einfühlung. 1909. Dans la préface de ce livre, Wilhelm Voringer dit qu'il veut lutter contre l'européocentrisme. Il veut lutter contre l'idée que les Européens colportent, à savoir que si les autres peuples n'ont pas poussé l'art de la figuration au niveau où les Grecs d'abord, puis les Européens ensuite l'ont poussé, notamment avec la Renaissance, c'est simplement que, croit-on, ils n'en étaient pas capables. Or, ce que dit Voringer, c'est que ça, c'est rigoureusement un préjugé eurocentriste, ethnocentriste. En vérité, si, par exemple, la civilisation arabe n'a pas exploité jusqu'au bout la figure, c'est parce que ça ne l'intéressait pas. L'histoire de l'art, c'est pas l'histoire de l'habileté manuelle. L'art au sens de l'art classique, l'art au sens de l'art de l'artiste, c'est pas une question d'habileté, c'est pas une question de virtuosité. Vous avez de très grands artistes qui ne sont pas des virtuoses au niveau de la main. C'est pas là que ça se situe. Donc vouloir faire croire que certaines civilisations n'ont pas réussi à figurer comme par exemple les Grecs l'ont fait ou la Renaissance a pu le faire, vouloir faire croire que c'est de l'impuissance, c'est typiquement un préjugé ethnocentriste. En vérité, dit Wilhelm Voringer en introduisant cette notion, c'est tout simplement que leur Kunstwollen n'était pas là où nous le situons. Et il montre que finalement, beaucoup de civilisations ont d'entrée de jeu donné naissance à un art abstrait. Et vous savez, le plus drôle, c'est que la préhistoire, et en particulier un grand préhistorien, spécialiste également de l'art préhistorique, André Leroy-Gourhan, a montré bien des décennies après Wilhelm Boehringer que, contrairement à ce qu'on croit, le premier art paléolithique n'a pas été un art figuratif. C'est pas l'art de moins 15 000 d'Altamira, de Lascaux, etc., etc., ou de la grotte Chauvet. Non, le premier art connu paléolithique qui remonte à moins 50 000 est un art abstrait. Un art qui consiste en signes abstraits qui n'ont aucune dimension figurative. Donc finalement, ce n'est pas une impuissance, c'est simplement un autre Kunstwollen, une autre vision artistique du monde. Vous voyez, déjà, on découvre au niveau de la culture, on découvre à partir du début du XXe siècle, comme vous le savez tous, on découvre qu'il y a d'autres cultures et qu'il y a d'autres pratiques de l'art. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'importance pour Picasso et Braque de la découverte des masques africains, de la promotion, il n'y a pas d'autre mot, avec tous les malentendus que ça suppose, des primitifs, etc., etc. Alors, j'en arrive maintenant, après avoir montré ces ambiguïtés, j'en arrive maintenant à mon second point, où on va voir que décidément les relations entre art et culture sont beaucoup plus tumultueuses qu'on le croit. Elles sont même forcément ambivalentes, et elles sont condamnées à demeurer ambivalentes, puisqu'elles sont à la fois, j'énonce ici ma thèse, la thèse que je vais essayer de développer en essayant de respecter le temps qui m'est imparti, elles sont à la fois de composition et d'opposition. Autrement dit, il n'y a pas d'art sans culture, puisque ce qui reste dans tous les contextes sémantiques, dans tous les contextes qu'on vient de voir, quels qu'ils soient, c'est que la culture, c'est ce qui s'oppose à la nature. La culture, c'est ce qui n'est pas la nature. La culture, c'est ce qui vient en plus de la nature. Donc l'art est forcément culturel, puisqu'il est... L'art n'est pas dans la nature. L'art, c'est l'artefact. Ce qui n'est pas inné, l'art, c'est ce qui n'est pas inné, mais acquis, ou construit, c'est ce qui n'est pas donné, mais produit. Donc art veut dire d'abord artefact. Le sauvage, dans la topique du XVIIIe siècle, vous savez que le XVIIIe siècle distingue barbare, sauvage, civilisé. Le sauvage, c'est celui qui vit dans la forêt, c'est le premier homme de Rousseau, c'est l'homme à l'état de nature. Le barbare, c'est la période, c'est la fin du néolithique et le début des temps proto-historiques, c'est un pasteur, c'est celui qui est capable déjà de paître des troupeaux. Et le civilisé, c'est l'agriculteur, c'est celui qui a déjà des villages et des villes, donc voilà ce qu'on peut dire sur cette trilogie sauvage, barbare, civilisé. Donc il n'y a pas d'art sauvage. Tout art est nécessairement, suppose une société, suppose des hommes, un ensemble humain qui va précisément le recevoir et l'acclimater. Mais contradictoirement, est-ce qu'il n'y a pas dans la création artistique quelque chose d'extrêmement spontané, d'absolument libre, une sorte de sauvagerie interne de la création qui justement viendrait à entrer en opposition avec la culture en tant que, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, la culture forcément suppose des règles, elle suppose une convenance générale et pour lâcher le gros mot, elle suppose un goût quand ce n'est pas un bon goût. Et là-dessus, je ne peux pas ne pas rappeler, éventuellement on en discutera tout à l'heure si vous le souhaitez, le livre de Bourdieu, de la distinction, montrant précisément tout ce qu'il peut y avoir d'intimidant, tout ce qu'il peut y avoir de pression pour les classes dirigeantes, disons pour les bourgeois, dans le sentiment qu'ils ont, dans la certitude qu'ils ont de détenir le bon goût. Or, cette contradiction ou cette antinomie, la culture appelle l'art, l'incite à créer, mais aussi cherche aussitôt à le domestiquer, à l'acclimater, à en faire un service rendu, une sorte de vernis, de décoration sociale. Or, il n'y a rien qu'un artiste déteste autant que d'être apprécié ou évalué pour d'autres motifs que la valeur intrinsèque de son œuvre. Donc cette contradiction ou cette antinomie, eh bien, elle paraît constitutive des relations entre art et culture. Alors je ne peux qu'évoquer très brièvement, mais on pourra éventuellement y revenir, quelques textes qui, depuis le XVIIIe siècle, je le rappelle pour ceux notamment qui sont en classe terminale, qui voient le développement de l'esthétique, la réflexion sur le beau, sur le sublime, sur la sensibilité, et la théorisation par Kant du fameux plaisir esthétique comme étant désintéressé. Donc, quelques textes qui prennent pour thème ce porte-à-faux entre l'art et la culture, disons entre le génie créateur, le génie, c'est un mot du XVIIIe. Vous avez, pour faire court, trois grands penseurs du génie, Diderot, Goethe, en Allemagne, et en philosophie, Kant. Celui qui dit les choses les plus fortes, conceptuellement parlant, sur le génie, c'est Kant. Mais la thématisation du génie, c'est le XVIIIe siècle. Le génie, pour vous donner un petit peu, pour jeter un petit peu une perspective, le génie au XVIIIe, c'est un petit peu, si vous voulez, l'héritier de ce que les Florentins appelaient la furor animi. Alors la furor animi, si on traduit au pied de la lettre, ça veut dire la fureur d'âme. Mais furor en latin n'a jamais voulu dire fureur. En vérité, la furor animi, ça veut dire l'enthousiasme. C'est le fait pour l'esprit d'être soulevé par l'inspiration. L'enthousiasme, c'est celui qui a un dieu en lui, théos. C'est celui qui est pris par une sorte de souffle divin. Donc c'est ça le génie. Alors vous avez bien sûr, au XVIIIe siècle, l'opposition entre le génie créateur et les académies, et le goût, et la culture, en tant que le goût, eh bien, est forcément conservateur. Je dirais que c'est le propre du goût d'avoir presque toujours un temps de retard. Et c'est peut-être ça qui fait l'essentiel des modernités et de la surmodernité, c'est d'avoir compris que le goût a toujours tendance à s'attarder. Et par conséquent, si les artistes n'étaient pas là pour le bousculer, fût-ce en usant délibérément de pratiques de mauvais goût, eh bien, le goût n'aurait de cesse que de, rester là où il est, que de rester stable, que d'éviter tout changement. Il y a véritablement une avarice du goût. Il y a une façon d'être du goût qui vise toujours à thésauriser, à rester ce qu'il est et à continuer à accumuler des modèles qui sont toujours les mêmes. Alors, j'ai pas le temps, malheureusement, si je veux respecter, le temps de la conférence pour qu'ensuite nous puissions passer aux questions. J'ai pas le temps d'accorder toute l'importance que cela mériterait aux trois références que je voulais faire, mais il y en a une qui est celle de Diderot. Tout à l'heure, je vous lirai le texte si vous voulez. Disons que pour Diderot, l'antinomie, c'est d'un côté le génie. Le génie, c'est le singulier, c'est l'unique, c'est l'artiste qui est au fond directement en contact avec la nature. Il s'inspire de la nature, il voit la nature au second degré, il fait comme elle, il crée comme elle. Hein. D'ailleurs, entre parenthèses, génie et nature, c'est le même mot, on y reviendra si vous voulez, hein. Puisque génie, ça vient de gigno, le mot latin gigno, qui vient lui-même de nascor, qui veut dire naître. Hein, et gigno, genius, genesis, c'est la même racine, c'est l'engendrement. Le propre du génie, c'est d'être une nature. D'ailleurs, quand on dit de quelqu'un que c'est une nature, on veut dire par là que c'est un génie. Donc d'un côté, il y a le génie, thématisé par Diderot, et d'un autre côté, il y a le goût, qui a toujours tendance, n'est-ce pas, à être académique, à vouloir plaire aux classes dominantes, aux bourgeois, et qui a toujours, je le répète, un temps de retard. La deuxième thématique, c'est celle de Kant. Je ne peux pas l'expédier en trois lignes parce qu'elle est beaucoup plus, elle est extrêmement importante, n'est-ce pas? Mais c'est cette idée que c'est cette idée d'un plaisir esthétique qui est fondée sur le désintéressement. C'est-à-dire que le jugement de goût repose sur un type de plaisir qui n'a rien à voir avec un plaisir hédoniste, qui n'est pas de l'ordre de l'agréable. Et c'est la production par Kant du fameux concept de finalité sans fin. La finalité sans fin du beau chez Kant, n'est-ce pas? C'est tout ce qui fait que chez Kant, le goût, c'est le contraire du bon goût. Je veux dire que Kant promeut un universel sensible qui passe par la subjectivité individuelle, et cette subjectivité à vocation universelle n'a rien à voir avec la généralité sociologique. C'est pas parce que la généralité sociologique se précipite sur un produit que ce produit est beau ou bon. Il peut y avoir de l'universel dans un seul, et il peut y avoir de la particularité dans un grand nombre. Voilà au fond la leçon de Kant. Mais si vous voulez, là encore, nous y reviendrons. Et puis, la dernière référence que je voulais faire, touchant cette relative indépendance, voire quelquefois contrariété entre l'art et la culture, c'est Freud. Parce que très souvent on dit « Ah mais oui, chez Freud, il y a la sublimation. C'est parce que les hommes sont capables de faire des œuvres d'art ou bien d'être amateurs de ces œuvres d'art qu'ils se détachent de la satisfaction primaire de la pulsion pour justement investir cette libido dans des objets de curiosité intellectuelle ou bien dans des causes élevées dont est celle de l'art. Oui, sans doute, mais le problème c'est que ça, ce sont des conditions favorables à l'exercice de l'art, mais ça n'explique rien de l'art, parce que Freud, et là je voudrais quand même vous citer la phrase telle qu'elle est, Freud a quand même dans Malaise dans la civilisation une phrase qui est tout à fait énigmatique et qui est souvent citée d'ailleurs, hein, c'est que pour lui, je cite, « le côté utilitaire de la beauté n'apparaît pas clairement. On ne discerne pas qu'elle soit nécessaire à la civilisation. Et celle-ci, pourtant, ne saurait s'en passer. » Donc, l'énigme, c'est que pratiquement dans toutes les cultures, on trouve de l'art. Même si ces cultures ne se représentent pas l'art comme nous le représentons. C'est-à-dire en s'en faisant l'idée sacrale dont j'ai tout à l'heure parlé. Mais n'empêche qu'elle est présente partout. On ne connaît pas de civilisation sans art, sans témoignage artistique. Et cependant, dit Freud, on est incapable d'assigner à l'art un rôle particulier dans la construction de la culture. On peut dire par exemple que les bonnes manières contribuent à construire la culture, que apprendre aux individus à être polissés, à avoir des manières, à respecter les autres, à bien se tenir, tout ça en effet, ça construit la culture. Mais l'art non. L'art, on ne peut pas expliquer le rôle de l'art. L'art n'a pas de service à rendre particulier à la culture. Et pourtant, il n'y a pas de culture sans art. Donc c'est là quand même quelque chose qui est tout à fait essentiel et énigmatique, n'est-ce pas, et qui montre bien qu'on ne peut pas rabattre tout uniment l'art sur la culture et réciproquement. Alors, je ne vais pas, donner tout l'essor que je voulais lui donner à ma conclusion, qui était une troisième partie, et qui visait à montrer que le problème depuis un certain nombre de décennies se pose toutefois de manière encore différente par l'apparition de quelque chose que Walter Benjamin, dès les années 30 du XXe siècle, avait mis en évidence, c'est-à-dire le problème de la reproductibilité technique. Car c'est une chose pour l'œuvre d'art que de coïncider avec un objet singulier. Par exemple, si je veux voir le fils prodigue à l'auberge de Rembrandt, eh bien il faut que j'aille voir le tableau Hotzinger de Dredd. Sinon, il faudra que je me contente d'images qui seront plus ou moins bonnes. Alors qu'avec la photographie, avec le cinéma, avec les nouvelles techniques d'information et de communication, je dirais que l'œuvre d'art ne consiste plus en un objet unique. Elle a des corps de rechange. Elle est multiple. Une photographie, bien sûr, le photographe peut décider qu'il va tirer 10 originaux. Mais que veut dire la notion d'original quand il y en a 10? A fortiori quand il s'agit de copies de films. A fortiori lorsque le film a fait l'objet d'un remontage, lorsqu'il a été monté différemment, etc., etc. Et alors que dire des œuvres qui n'ont même plus du tout de corps physique, des œuvres immatérielles. Et je ne veux pas simplement parler d'œuvres virtuelles ou d'œuvres sur le net, je veux parler par exemple d'installations qui sont presque définissables comme des multiplicités algébriques à n dimensions, mais dont ces dimensions ne sont pas vraiment palpables. On ne sait pas où elles se situent. Donc, Bien entendu, le problème majeur qui est posé au XXe siècle au sujet des relations de l'art et de la culture, mais je n'ai pas voulu d'abord y insister parce que ça pose des problèmes qui, à mon avis, techniquement, sont tout de même un petit peu complexes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, mais depuis déjà quelques décennies, le problème des industries culturelles. Et en ce qui concerne les industries culturelles, qui sont la conséquence inéluctable de la reproductibilité technique. Je veux dire que les industries culturelles font que l'art obligatoirement devient un art de masse. Vous allez dire, mais pourtant, on a bien des témoignages que l'art contemporain n'est pas un art de masse. Mais bien sûr que si. Parce que si vous comparez l'art contemporain, même la musique de Boulez ou Stockhausen ou d'autres, si vous comparez cet art contemporain à l'art même classique, qui est-ce qui voyait cet art classique? Presque personne. Walter Benjamin rappelle même que, à la fin du Moyen-Âge, les peintures étaient cachées tout en haut de l'église, de façon à ce que seuls les clercs et les gens instruits aient finalement l'honneur, et plus que l'honneur, et soient admis finalement dans le sein des saints. Parce que les autres ne méritaient pas d'être comme ça mis en présence de cette aura de l'œuvre d'art. Donc aujourd'hui, au contraire, on peut considérer que en dépit de certaines apparences, l'art n'a jamais été aussi près du public. Ce qui ne signifie pas pour autant que les modes de réception soient parfaitement transparents et que le public soit satisfait, et les artistes aussi, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'on ne peut pas, en tout cas, tabler sur l'argument qui consisterait à dire, attention, art élitiste, couper des masses. Non, les masses sont désormais au cœur des productions culturelles. Alors évidemment, ça pose d'énormes problèmes, parce que qui dit masse, dit justement diffusion en série, dit industrie, et vous me voyez venir, dit capitalisme, dit profit, dit argent, dit télévision, dit grande diffusion, etc., etc. Donc, il y a un problème des industries culturelles. Je ne veux pas, je ferais de l'idéologie si je vous disais, si je tranchais les choses en disant c'est bien ou c'est pas bien. En gros, il y avait deux positions. Il y avait celle de Walter Benjamin qui considérait que c'était bien et inéluctable, je résume. Et puis, il y avait celle d'Adorno qui disait non, c'est finalement la fin de l'autonomie de l'art. Bien, aujourd'hui, il y a des penseurs, il y a des théoriciens qui réfléchissent à cette question des industries culturelles, sachant bien qu'il faut vivre avec son temps et qu'il est inéluctable que les arts se mettent finalement au bout du temps. Les arts ne peuvent pas en rester, si vous voulez, à l'artisanat du peintre dans son atelier comme c'était le cas avant. C'est pas possible. Donc voilà tous les problèmes que ça pose. Je m'excuse pour cette fin un peu précipitée, mais j'ai voulu m'approcher autant que faire se peut du format de minutes qui m'avait été imparti. Je vous remercie.